Nous sommes tous pleins d'habitudes. Et vous avez remarqué, nous avons beaucoup de mal à changer nos habitudes. C'est difficile d'en sortir, c'est un peu comme un chemin avec une ornière. On n'aime pas la nouveauté. Je suis plein d'habitudes. Vous avez remarqué, il n'y a pas longtemps, j'ai changé de voiture. Mais j'ai pris la même voiture, c'est juste la couleur qui a changé parce que je n'avais pas le choix. Et le sabbat matin, on est toujours assis à la même place. Nous sommes pleins d'habitudes. Nous n'aimons pas le changement. Les jeunes aiment le changement. Mais écoutez, donnez-leur quelques années et on en reparlera. Je pense par exemple, en mai 68, c'était la révolution. Les jeunes renversaient tout. Les gauchistes voulaient renverser les gouvernements. Il fallait renverser les institutions. Il fallait tout faire autrement. On était prêts à tout changer. Ceux qui étaient à l'époque les ténors de ce mouvement révolutionnaire, aujourd'hui sont des bourgeois bien installés dans les affaires et bien installés dans la politique, cette même politique-là qu'ils voulaient détruire et renverser il y a 40 ans. Nous avons du mal à changer, à remplacer, à progresser. Et pourtant, le christianisme, à son départ, était une dynamique de changement. Lorsqu'on regarde le christianisme aujourd'hui, on a l'impression qu'à bien des égards, le christianisme est devenu sclérosé, institutionnalisé. Et nous avons de la difficulté, vous avez remarqué, à dépasser ça. Dès le début de l'Évangile, il s'instaure dans le christianisme, dans la vie avec le Christ, une dynamique de changement et de remplacement. Jean, dans son Évangile, essaie de nous faire comprendre que Jésus est venu pour remplacer une foule de choses. En fait, remplacer tout ce qu'il y avait dans son temps. Alors j'aimerais regarder ce matin avec vous un certain nombre de choses que Jésus a remplacées. J'en ai pris 7 parmi les nombreuses choses que Jésus a remplacées. J'en ai relevé 7 importantes qui ont attiré mon attention et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Dans l'évangile de Jean au chapitre 2, on apprend que Jésus est invité à une noce et qu'il va changer, remplacer l'eau en jus de raisin. C'est un miracle extraordinaire quand on y pense. C'est un miracle qui a impressionné parce que c'était le premier que l'on voyait Jésus accomplir en public. Ce premier miracle de Jésus est présenté dans l'Évangile d'une façon spéciale. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2, il nous est dit au verset 11, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le mot miracle est employé ici, mais ce n'est pas le mot qui est employé couramment pour désigner un miracle dans les évangiles. Généralement, les évangélistes emploient dans leur texte un mot que l'on peut traduire par l'expression « œuvre puissante » et que nous avons dans notre texte comme « miracle ». Mais ici, derrière le mot « miracle » en français, se trouve un autre mot. C'est un signe que Jésus fait. Et ce signe nous indique que ce que fait Jésus, ce n'est pas seulement une œuvre puissante, ce n'est pas simplement une guérison par laquelle il a rendu la santé à quelqu'un qui était malade. Jésus ici opère un signe, c'est-à-dire une action significative, quelque chose qui a un sens plus profond que simplement changer de l'eau en jus de raisin parce qu'on n'en avait plus. Jésus ici accomplit un signe. Par ce signe, il va remplacer l'eau de la purification rituelle des Juifs par son sang. Ces vases étaient utilisés, nous dit le texte, pour la purification des Juifs. Et Jésus essaye de faire comprendre ici que ce n'est plus par les rituels de purification que l'on va pouvoir être pur. Si l'on veut être pur, maintenant, ce sera en acceptant ce que Jésus a fait pour chacun de ceux qui souhaitent être purifiés. Jésus va remplacer, pas simplement l'eau en vin, il va remplacer tout un système, toute une tradition de purification rituelle en invitant à s'approcher de lui, à accepter son sacrifice, parce que c'est par son sacrifice que l'on peut obtenir le pardon de nos péchés. C'est un remplacement important. Jésus ici attire l'attention de ses contemporains sur son sacrifice. Dès le départ de son ministère, dans le même évangile, au chapitre 19, on apprend que quand Jésus est sur la croix, on veut hâter la mort des condamnés, on veut casser leurs jambes pour qu'ils meurent plus vite. Ce n'est pas nécessaire pour Jésus parce qu'il est déjà mort. Et le soldat qui va percer son côté avec sa lance va noter qu'il sort du corps de Jésus de l'eau et du sang. En remplaçant ici cette tradition, Jésus essaye d'attirer l'attention sur ce que lui va faire. Il remplace en réalité tout un système ancien. Ce n'est pas la seule chose que Jésus va remplacer. La deuxième chose que j'ai notée n'est pas loin dans le texte, c'est dans le même chapitre. Un peu plus loin, il nous est dit, à partir du verset 13, que la Pâque des Juifs était proche. Il y avait donc toute cette préparation au temple. Et Jésus va entrer en discussion avec les gens de son temps et il va purifier le temple. Il va chasser les marchands du temple, les changeurs, les éleveurs qui avaient là envahi le parvis avec leurs animaux pour les vendre. Et les Juifs se tournent vers Jésus et lui disent, verset 18, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et encore une fois, derrière le mot « miracle » se trouve en fait le mot « signe ». Les Juifs demandent « Qu'est-ce que c'est que ce signe que tu es en train de faire devant nous ? Tu veux nous dire quoi ?» Et il va continuer à leur parler, il va leur dire, verset 19, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Et la discussion s'engage. Il a fallu 46 ans pour le construire, et toi tu fais le malin, tu t'imagines que tu vas le mettre par terre et le reconstruire en 3 jours. Et tout le monde rigole. Mais Jean, au verset 21, toujours au chapitre 2 de son évangile, explique ce que Jésus voulait dire. Mais il parlait du temple de son corps. Dans le miracle précédent, Jésus a présenté son sang. Ici, il parle de son corps. Jésus est en train de dire « Je remplace le temple ». Non seulement il remplace les rituels du temple, mais il remplace le temple. Il est le nouveau temple. Le temple était l'objet d'une vénération extraordinaire. C'était presque un objet d'adoration, le temple. Et depuis longtemps, les prophètes avaient invité le peuple à ne pas tomber dans l'idolâtrie du temple. Tournez quelques pages en arrière dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7. Jérémie, chapitre 7, à partir du verset 4, se trouve cette mise en garde du prophète contre le peuple de son temps déjà. Jérémie, chapitre 7, verset 4, il est écrit ceci. « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en pensant que c'est le temple qui va vous sauver, vous délivrer. Ce n'est pas nouveau. Déjà avant que le temple existe, ils avaient pris l'arche de l'Alliance comme une espèce de talisman pour se protéger et s'assurer la victoire. Ça n'avait pas marché. Ils pensaient avoir dans le temple la garantie d'avoir Dieu à leur disposition, là, avec eux. Mais Jésus vient et dit, « Le temple, je le remplace moi-même. » Remplacer le temple, c'est énorme. Ça dépasse ce que ses contemporains pouvaient imaginer et comprendre. Quand Jésus fait comprendre qu'il remplace le temple, il met là un remplacement qui va se perpétuer, qui va continuer. Il est dit, il parlait de son corps. Mais le corps de Jésus dans le Nouveau Testament prend une nouvelle dimension parce qu'on apprend que le corps de Jésus, c'est l'Église. Donc Jésus va remplacer un bâtiment par un groupe de gens qu'il appelle l'Église, son peuple. Non seulement il va remplacer le temple, mais il va inviter ceux qui l'acceptent comme leur sauveur à faire partie de cette nouvelle construction de pierre vivante qu'est l'Église. C'est un changement spectaculaire, c'est un remplacement colossal que Jésus fait dans son temps. Il y a une autre chose, une troisième chose que Jésus remplace et qui n'est pas loin encore dans le texte, c'est au chapitre suivant, au chapitre 3. Vous vous souvenez, Nicodème vient voir Jésus de nuit parce qu'il veut consulter Jésus sans être vu, vu de ses pères qui risqueraient de le critiquer ou de le rejeter pour avoir fait cela. Et Jésus va parler curieusement à Nicodème. Pour ne prendre qu'un exemple, regardez dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jésus va remplacer la naissance naturelle par une nouvelle naissance spirituelle. Jésus va parler là du baptême et de tout ce qui va avec. Seulement, si on parle d'une nouvelle naissance, cette nouvelle naissance doit être précédée par la mort à soi-même. Et c'est probablement là la partie la plus difficile. Mourir à soi-même pour naître de nouveau. Une nouvelle naissance qui demande la repentance, qui demande la confession, qui demande la conversion, qui demande un engagement de notre part, qui s'exprime par le baptême. Jésus remplace cette ancienne naissance par la nouvelle naissance. C'est un processus important et difficile. C'est aussi un remplacement colossal. Regardez quelques pages avant dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9, comment Jésus en parle. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Suivre Jésus demande de renoncer à soi-même, naître de nouveau demande de mourir à soi-même. Jésus remplace la naissance naturelle et invite à une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance dont la clé est l'acceptation de Jésus comme le sauveur personnel. Il y a une quatrième chose que Jésus remplace et qui a attiré mon attention dans l'Évangile de Jean un peu plus loin au chapitre 6. L'année suivante, c'était de nouveau l'époque de Pâques et une grande foule s'est rassemblée. Jésus va prêcher. Et finalement, à la fin de la journée, Jésus va inviter les disciples à nourrir cette foule. Mais les disciples ne voient pas comment ils vont faire ça. La seule chose qu'ils ont, c'est le casse-croûte de ce petit garçon qui a prévu son coup et qui a amené quelque chose depuis chez lui. Mais Jésus va multiplier ce pain et ces poissons pour nourrir une foule que l'on ne peut pas dénombrer parce qu'il y avait 5000 hommes, nous dit le texte. Mais on ne sait pas combien il y avait de femmes et d'enfants. Des milliers de gens. Jésus va nourrir des milliers de gens. Et le lendemain, cette foule, impressionnée par ce que Jésus a fait, se rassemble autour de lui et voudrait aller plus loin avec lui, parce qu'ils ont aussi leur agenda. Et Jésus leur parle un langage qu'ils ne comprennent pas. Prenez un exemple dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 32. Jésus leur parle et dit ceci. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 32. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus ici se présente comme celui qui remplace Moïse. Mais remplacer Moïse, pour un juif de ce temps-là, c'est impossible. Ce sont des immenses sandales à remplir. Remplacer Moïse. Et Jésus dit, mais il vous a donné la manne, mais le vrai pain du ciel, c'est pas ça. C'est pas ça le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est le pain que Dieu donne et qu'il envoie du ciel. Et Jésus se présente comme le pain venu du ciel. Jésus est en train de dire, je remplace Moïse en vous apportant beaucoup plus que la manne. Or, il y avait une tradition selon laquelle, lorsque le Messie viendrait, il ferait tomber à nouveau la manne du ciel. Jésus ici vient de nourrir une foule avec rien. Alors ils ont pensé que c'était lui en fait le Messie, mais selon leur manière de voir, selon leur conception du Messie à eux. Et Jésus leur dit, je remplace Moïse, je suis plus que Moïse. Et en effet, il y a dans le ministère de Jésus beaucoup de choses qui sont à mettre en parallèle avec Moïse. Jésus, on l'a vu tout à l'heure, a changé l'eau en vin. Moïse avait lui aussi changé l'eau en sang. Moïse, parmi les fameuses 10 plaies d'Égypte, avait provoqué une tempête et une grêle. Jésus, lui, va apaiser la tempête. Dans les 10 plaies encore, Moïse va provoquer des ulcères chez les gens et chez les animaux en Égypte. Jésus lui guérit toutes les maladies. Moïse avait provoqué les ténèbres sur tout l'Égypte, des ténèbres épaisses comme il n'y avait jamais eu encore. Et Jésus lui guérit les aveugles et il dit, « Je suis la lumière du monde. » Moïse avait fait tomber la manne. Jésus nourrit une foule. Moïse avait fait sortir l'eau du rocher. Et Jésus, parlant à la Samaritaine, lui dit, « Je peux te donner cette eau de la vie qui va jaillir en toi jusque dans la vie éternelle. » Moïse a fait mourir les premiers-nés. Et Jésus lui a ressuscité un fils unique. Moïse est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et Jésus a fait exactement la même chose. Il y a donc entre Moïse et Jésus de nombreux parallèles qui n'ont pas échappé aux gens de son époque, qui n'ont pas échappé à Jean qui a écrit l'Évangile, ni à ses contemporains. Et Jésus leur dit, en particulier dans ce moment-là de cette multiplication des pains, « Je remplace Moïse. » Mais pour remplacer Moïse, il faudra que tu montres que tu es à la hauteur, parce que remplacer Moïse, c'est quasiment impossible dans la compréhension de ce temps-là. En 5e point, Jésus va remplacer aussi la Pâque. C'est un remplacement colossal. Juste avant de mourir, Jésus va célébrer la Pâque avec ses disciples. Ils vont la préparer comme d'habitude, ils ne s'attendent d'ailleurs pas à ce qui va se passer. Matthieu, Marc et Luc vont tous les trois dans leur évangile présenter ce repas spécial, ce repas devenu spécial parce que Jésus va s'associer au pain et à la coupe qui est déjà traditionnellement utilisée dans la fête de Pâques. L'évangéliste Jean, lui, va rajouter cette dimension que les autres évangélistes n'ont pas inclus dans leur évangile. Il va y apporter ce lavement des pieds que Jésus va utiliser, qui était aussi traditionnel, et auquel il va donner une dimension tout à fait particulière. Lavement des pieds dans lequel il va dire, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. » Mais Jésus va transformer ce repas, les disciples ne s'y attendent pas, il va lui donner une nouvelle dimension. Regardez dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11, ce que l'apôtre rapporte comme instruction de la part du Seigneur à ce sujet-là. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, au verset 25. Jésus dit ceci, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Jésus va transformer cette Pâque en un mémorial de sa mort et une annonce de son prochain retour. C'est un changement colossal. Jésus, qui s'est présenté comme le nouveau Moïse, leur propose maintenant un nouvel exode qui commence là, maintenant, avec cette nouvelle fête de Pâques transformée dans la Sainte Cène, comme nous l'appelons aujourd'hui. Jésus leur propose un nouvel exode, l'exode non pas de l'Égypte, mais un exode du péché, un exode du mal, un exode du mal qui est en eux, de leurs mauvaises habitudes, de tout ce qui est à changer, de tout ce qui finalement est à remplacer en eux. Jésus remplace la Pâque parce qu'il est devenu lui la Pâque. Et l'apôtre Paul rappelle encore que Christ est notre Pâque. Jésus finalement dit, non seulement je suis le temple, mais je suis aussi les rituels du temple, je suis aussi toutes les fêtes du temple. Jésus remplace la Pâque et invite à un nouvel exode. Et puis sixièmement, j'ai été impressionné de voir que Jésus se remplace lui-même. Vous vous souvenez, avant de remonter au ciel, Jésus a fait une promesse à ses disciples. On va la relire ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 16, il est écrit ceci. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. » Jésus se remplace lui-même. Prêt à remonter au ciel, il dit aux disciples, « Je ne vais pas vous laisser orphelin. Je vais venir à vous. Je vais même demeurer en vous par l'action du Saint-Esprit. » Jésus, qui a remplacé toutes sortes de choses déjà bien établies, bien instituées dans son temps, va se remplacer lui-même par le Saint-Esprit. Mais remplacer Jésus, ce n'est pas simple non plus. C'est pire que remplacer Moïse. Il faut donc que celui qui remplace Jésus soit encore plus puissant que le Jésus sur terre. Et c'est ce que Jésus leur promet. Vous vous souvenez, Jésus avait promis que ses disciples seraient capables de faire des actions encore plus puissantes que celles qu'ils avaient vues Jésus faire. Mais comment est-ce possible? Jésus lui-même ne serait plus là? Par l'action puissante de son esprit, ses disciples continueront sa tâche. Au-delà de Jésus, au-delà même de ce Jésus remplacé par l'action du Saint-Esprit, les mains de Jésus vont se prolonger dans les disciples qui vont agir, poussés par le Saint-Esprit. C'est un remplacement énorme, c'est une substitution colossale que Jésus annonce à ses disciples. Et puis il y a une septième chose qui m'a frappé parmi toutes celles que Jésus a remplacées. J'aurais peut-être dû commencer par celle-là. C'est en réalité celle que l'évangéliste Jean annonce dans le premier chapitre de son évangile. Lorsque Jésus vient pour être baptisé, Jean-Baptiste va le présenter à toute la foule. C'est dans Jean chapitre 1, verset 29, et il dit « Voici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus remplace l'agneau. Ces agneaux qu'on a sacrifiés depuis la sortie du jardin d'Éden jusqu'à ce moment-là, tous ces sacrifices-là représentaient le véritable sacrifice pour tous ceux qui l'acceptent comme leur sauveur. Jésus remplace l'agneau. Ce remplacement, d'ailleurs, a provoqué dans l'univers une surprise énorme. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a remplacées et que vous pourriez trouver vous-même dans le texte de l'Évangile. J'aimerais simplement en souligner trois autres qui m'ont frappé en regardant tout ce que Jésus a remplacé dans son ministère. Jésus, sur la croix, on disait il y a un instant, a remplacé l'agneau. Mais en fait, c'est moi qui l'a remplacé sur la croix. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce qui m'attend. Parce que moi, pécheur, je n'ai pas d'autre issue. C'est vrai qu'il a remplacé l'agneau. Parce que l'agneau était cet animal innocent par définition que Jésus est, sans péché. Mais en fait, c'est moi qui l'a remplacé sur la croix. Parce que c'est là que je devais aller. Regardez avec moi ce texte dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Première épître de Pierre au chapitre 2. Au verset 23, il est écrit ceci. Jésus, qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est ça qu'il a porté. Il a porté ce que j'aurais dû porter, cette mort finale. Et on s'étonne que Jésus soit troublé à ce point dans la perspective de la mort. Mais c'est que cette mort que Jésus a affrontée, c'est l'équivalent de la seconde mort dont nous parle l'Apocalypse, au-delà de laquelle il n'y a rien, et au-delà de laquelle Jésus n'arrivait à rien voir, parce qu'il n'y a rien. Pour lui, il y avait la résurrection. Résurrection qui garantit la mienne et la vôtre. Jésus, en fait, m'a remplacé sur la croix. Lorsque Jésus remplace quelque chose, c'est toujours pour apporter quelque chose de meilleur. Regardez dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 8. Épître aux Hébreux, chapitre 8. Parmi les nombreux passages où l'auteur ici se réfère à ce que Jésus apporte de meilleur, il est écrit ceci au verset 6. Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 6. « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur, en parlant de Jésus, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux essaye de faire comprendre que le sacrifice de Jésus est un meilleur sacrifice, que le Sauveur est un meilleur Sauveur que les agneaux qui ont été apportés, que l'alliance est une meilleure alliance, que tout ce que Jésus remplace, il le remplace par quelque chose d'excellent, quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux pour chacun d'entre nous. Alors nous n'avons pas à craindre les remplacements de Jésus. Nous n'avons pas à craindre ce que Jésus veut changer, parce que lorsqu'il change quelque chose, c'est toujours pour le mieux. Il y a une deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, un autre remplacement que Jésus fait. Jésus me remplace dans le jugement. Nous apprenons par la prophétie de Daniel que le jugement a commencé dans le ciel depuis un siècle et demi environ, dernière étape avant le retour de Jésus. Et nous pourrions nous dire, mais c'est injuste, pourquoi est-ce que moi je dois être jugé sans pouvoir me défendre, sans être présent même dans ce jugement ? Comment Dieu peut-il me juger sans que je sois là pour me défendre? Nous pensons parfois comme Job qui veut se présenter à Dieu et qui dit « Je veux me présenter devant lui, je défendrai ma cause, je montrerai que j'ai raison. » Mais le Seigneur, dans sa sagesse, nous remplace dans notre jugement. Parce que la Bible nous dit, et vous connaissez ce texte, que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Que fait-il ? L'Épître aux Romains nous le dit, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 34. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 34. Il est dit, « Qui condamnera les élus ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Heureusement que je ne suis pas là dans le jugement pour me défendre, parce que je n'ai rien pour me défendre. » Que voulez-vous que nous apportions pour prendre notre défense devant Dieu ? Nous n'avons rien, mais nous avons un avocat qui prend notre place et qui intercède pour nous dans les cieux pour que nous puissions être sauvés en son nom. Et puis, il y a encore quelque chose que Jésus veut remplacer. Comme il l'a fait pour bien des gens de son temps, il y a bien des choses que Jésus veut remplacer chez chacun d'entre nous. Il a remplacé beaucoup de choses dans son temps, des remplacements énormes qui ont bousculé les mentalités, les habitudes, les conceptions de ses contemporains. Mais je reconnais qu'il y a aussi chez moi beaucoup de choses que le Seigneur a besoin de remplacer. Des remplacements importants aussi, dont nous seuls connaissons la liste. Jésus, qui s'est présenté comme le nouveau Moïse, propose aussi à chacun d'entre nous un nouvel exode. Un exode qui nous sort du péché, qui nous conduit vers la terre promise. Jésus nous propose de remplacer effectivement ce qui, dans notre vie, a besoin d'être remplacé pour y apporter quelque chose de meilleur. Et je pense à tout ce que le Seigneur a besoin de remplacer dans mon existence. J'aimerais vous inviter à faire la même chose. Le Seigneur a pour chacun d'entre nous de grandes ambitions. Mais ces grandes ambitions ne peuvent se réaliser que lorsqu'il aura réussi à changer et à remplacer en nous tout ce qui a besoin d'être remplacé. Regardez par exemple dans la deuxième épître aux Corinthiens, pour mesurer l'ampleur de l'ambition que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17, il est écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce que le Seigneur veut faire, c'est un renouvellement complet. C'est une recréation. Ce n'est pas simplement un rafistolage, c'est un remplacement complet. Et ma question est de savoir si je suis prêt à lui laisser transformer, remplacer ce qui doit être remplacé chez moi. Il a déjà commencé son travail et il m'a promis qu'il achèverait ce remplacement et cette œuvre avant son retour. L'Épître aux Philippiens, dans le chapitre 1, nous fait cette promesse. Mais je reconnais qu'il y a encore beaucoup de remplacements à faire, beaucoup de substitutions à accomplir. Et j'aimerais que le Seigneur trouve en moi et en chacun d'entre nous l'ouverture pour qu'il puisse accomplir ce changement, qui ne va peut-être pas venir du jour au lendemain, mais qui va se faire par sa grâce, jusqu'à ce qu'il puisse remplacer cette dernière chose qu'il veut remplacer pour chacun d'entre nous, c'est nous donner un nom nouveau. L'Apocalypse nous promet qu'il nous donnera un nom nouveau, c'est-à-dire véritablement un caractère nouveau. Et c'est pour cela qu'il va nous donner un nom nouveau, qui correspond à cette nouvelle expérience que nous aurons vécue en le laissant transformer, remplacer en nous tout ce qui a besoin d'être remplacé, pour qu'il nous donne par sa grâce quelque chose de meilleur. Amen.